Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quand les troupes syriennes prennent position face aux Turcs, les deux voisins s'apprêtent à s'affronter directement. Bachar el-Assad envoie son armée pour aider les Kurdes. Nous serons sur place en Syrie dans un instant. Alors qu'un conseil de défense s'est tenu à l'Elysée hier soir, Emmanuel Macron redoute une catastrophe humanitaire. Et c'est dans ce climat que se jouera ce soir un match à haut risque au Stade de France. France-Turquie pour l'Euro, 30 à 40 000 supporters turcs attendus. Les Républicains ont un nouveau président largement élu par les adhérents du parti. Il sera l'invité du grand entretien tout à l'heure.
Oui, Christian Jacob au micro de France Inter à 8h20, 8h22. Dialoguez avec lui, vos questions 01 45 24 7000.
À la une aussi, ces mesures pour protéger l'enfance en danger, examens médicaux complets et systématiques à la maternelle par exemple. La taxe foncière va remplacer la taxe d'habitation pour financer les communes, mais c'est plus compliqué que ça, on va le voir. Un sommet de la vapote pour redonner confiance dans le vapotage en France. Et le dernier album d'Isia Higelin, percutant à la fin du journal.
France Inter.
C'est un chassé-croisé militaire qui est en train de faire basculer le conflit syrien. Il y a 5 jours, l'arrivée des soldats turcs, le départ des Américains annoncé hier, puis cette contre-offensive de l'armée de Bachar el-Assad. Les soldats syriens viennent prêter main forte aux Kurdes. Avec nous, Aurélien Colli, vous êtes dans le nord de la Syrie, tout près de la frontière irakienne. Bonjour.
Bonjour Florence.
Aurélien, vous avez vu arriver les troupes de Bachar el-Assad?
Oui, le régime syrien a planté son drapeau dans la ville de Tal Tamer où on se trouvait hier après-midi, dernière localité avant la ligne de front entre Kurdes et Turcs, d'où partait le ravitaillement des combattants kurdes et où arrivaient aussi des blessés et des morts, combattants ou civils, notamment ceux d'un convoi frappé hier par l'aviation turque, une trentaine de morts et le double de blessés. Tal Tamer est stratégique pour stopper l'avancée turque qui est appuyée par des miliciens que les Kurdes considèrent comme des djihadistes armés et financés par Ankara. Les forces du régime syrien doivent aussi se déployer dans d'autres villes du nord-est, notamment Qamishli, où était toute la presse avec nous hier et qui s'est vidée en quelques heures. On a dû partir en urgence, les forces kurdes avaient abandonné la ville, abandonné les checkpoints et le risque était que le seul poste frontière pour repasser en Irak passe sous contrôle du régime syrien, ce qui n'est pas encore le cas. On s'y trouve et on devrait pouvoir repasser maintenant en Irak du côté du Kurdistan irakien.
Aurélien Colli au poste frontière de Fishkabor entre la Syrie et l'Irak avec Benjamin Chauvin. Face à cette situation qui s'envenime, le mot est faible, Emmanuel Macron a donc tenu un conseil de défense à l'Elysée hier soir. Bonjour Franck Madvon.
Bonjour Florence.
La France demande à nouveau la cessation immédiate de l'offensive turque.
Oui, la France est depuis le début très hostile à cette offensive. Elle est d'abord inquiète d'une résurgence de Daesh. On en parlait avant le journal, c'était l'un des sujets au menu du conseil de défense hier soir. Les Kurdes, vous le savez, détiennent des milliers de djihadistes et de leurs proches. Ils ont annoncé hier que 800 d'entre eux avaient fui le camp d'Ayn Issa dans le nord de la Syrie. Pour Paris, le président turc Erdogan est responsable. La France demande une réunion d'urgence de la coalition internationale contre Daesh, dont fait partie Ankara. Des sanctions ont déjà été prises. La France et l'Allemagne ont suspendu ce week-end leur vente d'armes à la Turquie. Paris est aussi préoccupé par la sécurité des Français en Syrie. L'Élysée annonce, sans donner de détails, des mesures imminentes pour protéger les personnels civils et militaires. Ce n'est pas officiel, mais des centaines de membres des forces spéciales seraient présents en Syrie. Quelques humanitaires sont aussi installés dans la zone.
Et puis Franck, l'autre grande crainte, c'est celle du désastre humanitaire en Syrie.
Oui, Emmanuel Macron l'a dit, l'offensive turque a déjà fait 130 000 déplacés, chiffre qui augmente d'heure en heure. Aurélien Colli le disait, des villages se vident, place à la guerre. L'armée syrienne avait déjà apporté son aide aux Kurdes face aux Turcs lors de la bataille d'Afrin l'an dernier, mais c'était un soutien logistique. Cette fois, la région se prépare à un possible conflit majeur entre la Turquie d'un côté et de l'autre l'armée syrienne et ses alliés, à commencer par la Russie. Et dans le même temps, le désengagement américain se confirme. Les États-Unis ont annoncé le retrait de 1000 soldats du nord de la Syrie. Pour le chef du Pentagone, Mark Esper, la situation est intenable.
Et à l'issue de ce conseil de défense, merci Franck Madvon, l'Elysée annonce des mesures pour renforcer la sécurité du territoire ici en France, à commencer par ce soir et ce match à haut risque, vu le contexte France-Turquie à 20h45 au Stade de France. Match retour retour des qualifications pour l'Euro 2020. Les Bleus avaient perdu à l'aller. Les policiers seront deux fois plus nombreux que d'habitude pour un match de l'équipe de France devant des supporters turcs venus en masse sur le terrain. Joueurs et sélectionneurs vont tenter de ne penser qu'au football. Cédric Guillou.
Ce contexte géopolitique tendu, cet important dispositif de sécurité, il faudra en faire abstraction pour le capitaine des Bleus ce soir, Raphaël Varane.
On a une motivation supplémentaire, mais qui est due au terrain simplement. Après le contexte géopolitique, on essaie de faire abstraction, c'est pas ce qui nous préoccupe.
Une marée de supporters turcs est attendue pour le match de ce soir. 30 à 40 000 supporters, près de la moitié du Stade de France. Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.
Les supporters turcs sont très attachés à leur équipe nationale. Il y a une ferveur, une passion peut-être exacerbée, mais on jouera chez nous, hein. On est au Stade de France.
Son homologue turc Şenol Güneş exhorte ses supporters à être ce soir dans un esprit de fraternité, après un match aller marqué par les sifflets des supporters turcs pendant la Marseillaise.
J'attends une bonne ambiance. Parfois, il y a des provocations dans les tribunes, mais je veux m'adresser aux supporters turcs. S'ils viennent voir un match, c'est pour le plaisir de voir du foot. J'espère que les supporters seront dans un esprit de fraternité.
Et Şenol Güneş d'espérer, comme Didier Deschamps et Raphaël Varane, que ce contexte diplomatique tendu ne prenne pas le pas sur le match.
Cédric Guillou, du point de vue sportif, la France est bien partie pour se qualifier avec une victoire. Ce serait mieux, mais un nul suffira. Et même une nouvelle défaite si jamais l'Islande et l'Albanie ratent leur match.
Il est 8h07, Florence. Comment protéger les enfants qui naissent dans les familles les plus fragiles?
Ils sont 500 000 de moins de 3 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ces enfants vont très peu en crèche, moins de 5%. Ils sont inscrits, ils passent donc trop souvent sous les radars de l'aide sociale et médicale. D'où ces mesures annoncées aujourd'hui par le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet.
Pour aider les enfants et leurs familles, le gouvernement veut agir le plus tôt possible dès la grossesse avec l'entretien prénatal précoce. Cette consultation qui permet d'accompagner les futurs parents est pour l'instant facultative. Elle devrait devenir obligatoire à partir de 2020. Avant et après l'accouchement, les visites à domicile de sage-femme ou d'infirmière puéricultrice seront également plus nombreuses pour les mères les plus fragiles. Ce plan prévoit une série de mesures afin de réduire les inégalités d'accès à la santé, comme la mise en place d'examens médicaux complets et systématiques à la maternelle, sachant qu'il existe aujourd'hui de grandes disparités territoriales, notamment dans les départements d'outre-mer. À Mayotte, par exemple, il n'y a que 2 médecins scolaires pour 100 000 enfants. Il s'agira aussi de développer les consultations médicales pour les plus jeunes jusqu'à l'âge de 6 ans, en renforçant le rôle des PMI, les centres de protection maternelle et infantile, où seront créés des postes de psychologues et de psychomotriciens. Enfin, le gouvernement veut systématiser les bilans de santé de tous les jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et faciliter ainsi le suivi médical de ces enfants particulièrement vulnérables.
Et ces mesures coûteront 80 millions d'euros inscrits dans le budget de l'État et celui de la Sécu l'an prochain. Le budget, on y vient. Coup d'envoi de son examen à l'Assemblée cet après-midi. Il va entériner la disparition de la taxe d'habitation. 80% des foyers les moins aisés la payent pour la dernière fois cette année. Pour les autres, l'impôt disparaîtra progressivement d'ici 2023. Et la question du financement des collectivités locales se pose donc plus que jamais, puisqu'elles vont perdre, Delphine Simon, l'une de leurs principales sources de revenus.
La fin de la taxe d'habitation sera compensée à l'euro près. Cette promesse d'Emmanuel Macron, les maires la contestent. Pour la compenser, l'exécutif va transférer le produit de la taxe foncière actuellement perçue par les départements. Elle va devenir un impôt communal, en échange de quoi les départements recevront une part de TVA. Sauf que pour beaucoup de communes, le produit de la taxe foncière et de la taxe d'habitation ne correspondent pas. À Sceaux, par exemple, l'écart est de 11 millions d'euros. Le gouvernement va donc créer un coefficient correcteur, mais il est déjà contesté. Autre nouveauté, contrairement aux années précédentes, les bases d'imposition ne seront pas revalorisées du montant de l'inflation. Enfin, sur le fond, les municipalités y perdent en autonomie fiscale. À l'avenir, elles ne pourront plus faire varier cet impôt en fonction de leurs besoins. Jusqu'à quand l'État, qui veut réduire massivement ses dépenses, va-t-il réellement compenser le manque à gagner? Toutes ces questions auraient mérité une loi à part, regrette l'Association des maires de France. Noyée dans les finances de l'État, les débats seront sans doute réduits à la portion congrue.
Et pour tout comprendre, rendez-vous sur franceinter.fr. Plus globalement, l'an prochain, le gouvernement prévoit plus de 9 milliards d'euros de réduction d'impôts pour les Français, notamment via la baisse de 5 milliards de l'impôt sur le revenu. Le projet de budget sera débattu jusqu'à Noël. Kais Saied plébiscité en Tunisie. Il est élu président de la République avec plus de 70% 50% des voix selon les sondages à la sortie des urnes. Universitaire novice en politique, il a largement devancé son adversaire, l'homme d'affaires Nabil Karoui. Le parti islamiste Ennahda a salué sa victoire. Et puis en Pologne, les conservateurs au pouvoir remportent les législatives. Ils devraient conserver la majorité absolue. Après avoir promis une nouvelle allocation familiale, la baisse des impôts et la hausse du salaire minimum. Et puis dans ce nouveau Parlement, on notera le retour de la gauche qui n'était plus présente depuis 4 ans et puis l'entrée de l'extrême droite anti-système.
Il est 8h11, Florence, combien de semaines décisives n'a-t-on pas annoncé au sujet du Brexit?
Et celle-ci en est une nouvelle avec un sommet européen jeudi et vendredi à Bruxelles avant la date fatidique du 31 octobre. Londres et Bruxelles sont donc entrés dans un tunnel de négociations pour éviter le no deal. Insoutenable suspense pour les entreprises, notamment celles qui chez nous commercent avec la Grande-Bretagne dans cette société où s'est rendu Laurent Kramer, c'est 20% du chiffre d'affaires qui est en suspens.
Installé des deux côtés de la Manche, à Nantes, mais aussi en Angleterre, dans la vente d'objets de salle de bain, Gwenaëlle Le Quent a beau envisager et travailler depuis 3 ans à tous les scénarios possibles sur le Brexit.
Très honnêtement, on ne sait pas où on va. Vous imaginez, vous devez faire des budgets dans un brouillard total, visibilité zéro.
Pour anticiper des difficultés d'approvisionnement, de longues queues de camions qui ralentiront son activité, l'entreprise accumule des stocks côté britannique. Pour échapper aux droits de douane qui s'élèveraient après le Brexit, le chef d'entreprise envisage de délocaliser une partie de sa production française vers la Grande-Bretagne ou inversement si l'économie anglaise devait plonger.
C'est vraiment compliqué puisqu'on ne sait pas exactement sur quel scénario on va devoir jouer. Et la problématique, c'est que vous ne déplacez pas des moules ou des machines comme ça du jour au lendemain. Ce sont des process longs et coûteux. Donc on est inquiet sur ce point-là.
Se préparer au Brexit est en réalité impossible tant que l'issue des négociations ne sera pas connue, conclut le chef d'entreprise.
Boris Johnson doit appeler Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker dans la journée. Le gouvernement équatorien et le mouvement indigène ont trouvé un accord cette nuit pour sortir de la crise après 12 jours de manifestations contre la hausse spectaculaire du prix de l'essence. Le décret qui supprimait les subventions au carburant a été retiré. Inspiré et recraché de la vapeur à la nicotine, sans combustion, sans l'odeur du cendrier. Est-ce que c'est si bien que ça, finalement, alors que les États-Unis annoncent 26 morts du vapotage, qu'un rapport de l'OMS a pointé sa nocivité cet été, les acteurs du secteur, usagers, médecins, scientifiques, industriels, se réunissent ce lundi pour un sommet de la vape, avec ce sondage BVA spécialement commandé pour l'occasion selon lequel, Véronique Julia, 3 Français sur 5 pensent désormais que vapoter est aussi dangereux que fumer.
Les industriels le disent, les événements de l'été ont eu un impact inédit sur la vente d'e-cigarettes. Le chiffre d'affaires aurait reculé ces dernières semaines de 20 à 30%. Les candidats au vapotage se font plus rares et les anciens, entre guillemets, ont de plus en plus de doutes. À quelques jours du démarrage du mois sans tabac en France, c'est au mois de novembre, Jean-Pierre Coutron, psychologue addictologue, veut donc rappeler que les morts aux États-Unis sont dues à des produits illicites. Si on évite le marché noir et les achats à la sauvette ou sur Internet, on réduit, dit-il, le risque d'inhaler n'importe quoi.
Quand on va dans une boutique qui utilise des marques aux normes de qualité un peu vérifiées, vous avez zéro risque.
Autre critique faite au vapotage, il trouverait un succès croissant auprès des jeunes et les ferait rentrer dans la dépendance à la nicotine. Là encore, l'addictologue a sa réponse. Comme pour le tabac, dit-il, il faut appliquer la loi et interdire la vente d'e-cigarettes aux moins de 18 ans.
On peut s'interroger sur un certain nombre d'industriels qui fabriquent des goûts, comme ils le font avec l'alcool, pour spécialement cibler les jeunes. Et là, moi je ne suis pas du tout contre que sur ce type de produit, on dise « attendez ça, c'est interdit ».
Si les effets à long terme du vapotage sur la santé ne sont pas encore connus, ses défenseurs continuent de rappeler que c'est un outil précieux à l'arrêt du tabac. D'après Santé publique France, entre 2010 et 2017, 700 000 fumeurs auraient décroché en France grâce à la cigarette électronique.
Véronique Julia, incandescente comme son père avant elle, Isia sort un quatrième album, Citadelle. Il y a de l'hommage à la figure paternelle dans ce disque au grand Jacques Higelin, ainsi que quelques collaborations marquantes, Mathieu Culeron.
Avec la disparition de son père et la naissance de son enfant, Isia Higelin a été bombardé de sentiments parfois contradictoires. Ce nouveau disque a servi d'exutoire.
Chaque album pour chaque artiste est très personnel, mais celui-là particulièrement, ça touche quand même à des trucs très très intenses de ma vie et ça m'a fait du bien de pouvoir le mettre sur un disque.
Chevaucher, rider encore une heure.
Isia qui parvient même à faire chanter Jeanne Haddad en français sur une chanson.
Elle a dit ok, très bien madame. Et c'était génial. Enfin voilà, moi je pensais qu'elle serait peut-être pas d'accord et tout. Et elle a toutes les capacités du monde, elle pourrait faire n'importe quoi. Elle pourrait chanter en créole, ce serait super, je pense. Tu vois, y a pas de problème.
Citadelle fait référence à Calvi, la place forte d'Igelin Père, une présence bienveillante qui plane sur le disque de sa fille.
C'est comme s'il était là, comme s'il m'accompagnait. C'est comme si je lui rendais hommage en fait. C'est comme si. Et puis moi en fait, vraiment, j'ai aucun problème avec le fait de parler de mon père. Ou j'ai quand même l'impression que c'est comme si je lui faisais des. Je faisais des mini-hôtels où j'allumais des mini-encens tous les soirs, où tout à coup je disais « Tiens, c'est pour toi, Daddy, tu vois ». C'est comme perpétuer l'énergie Igelin, l'énergie de notre famille, en fait, comme un flambeau, quoi.
Parmi les titres à retenir, ce duo avec Dominica, esselé, où Isia semble s'être trouvé une nouvelle voix.
Pour le concert du mois de novembre à La Cigale, c'est rappé, c'est complet. Il vous reste le 9 à Saint-Lô ou l'Olympia l'an prochain, le 1er avril.
Merci Florence Paracuelos.